France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Les animaux de la ferme. Épisode 1, le cheval Malabar. Le 17 août 1945 paraît en Angleterre une fable politique intitulée « La ferme des animaux ». Son auteur, l'écrivain George Orwell, a eu toutes les peines du monde à le faire publier. Il faut dire que son contenu met certaines personnes mal à l'aise. Il dénonce en effet la manière dont les dirigeants soviétiques ont accaparé le pouvoir et les ressources au détriment de la population, et tout cela sous couvert d'égalitarisme. Or, l'URSS de Staline est un allié de l'Angleterre, et en temps de guerre, on ne critique pas ceux qui combattent à vos côtés. Après plusieurs refus, donc, George Orwell parvient à faire éditer son livre, lequel connaît tout de suite un grand succès. La reine Elisabeth II, qui désire le lire, est même obligée d'envoyer son messager royal le chercher à la librairie anarchiste de Londres, seul endroit où il n'est pas en rupture de stock. Ainsi, au coin de l'un des âtres du palais de Buckingham, la reine découvre-t-elle, un à un, les personnages de cette fable politique. Premier à entrer en scène, les poules et le vieux cochon, sage l'ancien.
Bientôt, les autres animaux se présentèrent et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce furent d'abord le chien Filou et les deux chiennes qui se nommaient Fleur et Constance, et ensuite les cochons qui se vautrèrent sur la paille face à l'estrade. Les poules allèrent se percher sur des appuis de fenêtres et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons et là se prirent à ruminer. Puis deux chevaux de trait, Malabar et Douce, firent leur entrée. Ils s'avancèrent à petits pas, précautionneux, posant avec délicatesse leurs nobles sabots sur la paille de peur qu'une petite bête ou l'autre s'y fût tapie.
Dans la ferme des animaux, chaque espèce animale correspond à un personnage historique ou à un groupe social. Au centre du dispositif, il y a les cochons, qui sont la caste des dirigeants soviétiques. À leur tête, on reconnaît Staline sous les traits d'un cochon nommé Napoléon.
Il y a d'autres coupables. Qu'ils se lèvent et se confessent.
Le couple de chevaux formé par Douce et Malabar représente, lui, le peuple, travailleur mais opprimé. Les poules sont les petits propriétaires terriens qui se révoltent contre la collectivisation. Les chiens sont les agents de la police politique. Les chats sont les opportunistes qui arrivent toujours à suivre leur propre chemin pour se tirer d'affaire. Quant aux fermiers, ils incarnent l'ancien régime, le tsar Nicolas II, sur le point d'être renversé. Car dans les premières pages du récit, les humains sont chassés de la ferme par les animaux, tout comme la noblesse a été expulsée de Russie par les révolutionnaires de 1917. En fait, Orwell raconte à sa manière l'histoire politique de la Russie, puis de l'URSS, depuis la révolution ratée de 1905 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai découvert ce livre, je me suis demandé selon quels critères Orwell avait décidé de faire correspondre tel animal avec tel personnage historique. Pourquoi avait-il choisi les cochons pour représenter la pire des castes et non pas, par exemple, les vaches ? J'adore les vaches, ne vous méprenez pas, mais pourquoi une vache ne pourrait-elle pas, elle aussi, représenter un tyran ? Est-ce qu'on est vraiment certain que les vaches sont si pacifiques que cela dans le fond ? Moi-même, parfois, quand je croise le regard de l'une d'entre elles, j'ai le réflexe de baisser les yeux parce que, on ne sait jamais ce qu'il y a dans le fort intérieur d'une vache. Et le cheval ? Pourquoi est-ce qu'il devrait forcément être bon et travailleur comme Malabar ? Est-ce qu'il ne pourrait pas être agressif lui aussi ? Comme d'habitude, quand je me pose ces questions existentielles, je prends ma grosse clé de 20 cm de long et je descends chercher des réponses dans la salle des archives.
J'ai vécu cette scène qui a duré moins de 3 minutes, dans laquelle un homme a été pratiquement disloqué alors qu'il était séparé du cheval par une porte. Le cheval... En deux mots, l'homme était appuyé sur la porte d'un box. Moi, j'étais à côté de lui. Et il apportait un sucre au cheval qu'il ne connaissait pas. Le cheval venait d'arriver. Le cheval avait un passé, on ne l'a su que plus tard, un passé chargé de douleur, de malheur. Le cheval a attrapé cet homme par l'épaule. Cet homme était le palefrenier de mon maître, celui qui a été mon maître en haute école pendant 30 ans. Il l'a secoué comme un barbet secoue un rat. Ça a duré au moins 30 secondes, je ne pouvais rien faire. Il allongeait des coups d'antérieur à l'homme, mais les coups d'antérieur étaient amortis par la porte qu'il séparait de l'homme. Et au bout de 30 à 40 secondes, il l'a lâché. L'homme était dans le semi-coma et a eu l'épaule démolie. Bon, le passé de ce cheval, nous l'avons appris ensuite, c'est qu'il a été, à la suite de circonstances politiques au Portugal, le cheval était resté, paraît-il, enfermé pendant 2 ans. C'est ça ou c'est pas ça, on lui balançait juste de la nourriture ou maltraité par des gens ignares. En tout cas, le cheval avait pris l'homme en haine et tous ses réflexes d'agressivité et de courage d'animal acculé, parce que dans un box, il ne peut pas se sauver, il est là et il est passé à l'attaque.
Tout au long de cette série en 6 épisodes, nous allons replonger dans les archives pour mieux saisir le regard que nous portons sur les animaux. Pour chacune des 6 espèces dont nous parlerons ici, nous nous demanderons ce qu'ils représentent et symbolisent. Nous le ferons en suivant la fable d'Orwell, car c'est exactement ce qu'il a fait, lui, avant de leur donner un rôle dans la ferme des animaux. Au fond, il s'agira de faire alterner le regard de l'humain sur l'animal avec ce que nous savons aujourd'hui de ce qu'il en est réellement.
Eh bien, lorsque vous passez d'aventure sur une route au cours de ces week-ends que vous désirez maintenant de plus en plus printaniers, et ça viendra le printemps, vous apercevez parfois dans un champ un solitaire mais solide quadrupède, vous savez, discret mais tenace, qui tire de tout son poitrail quelques tombereaux ou quelques herses, et vous vous dites, tiens, un cheval.
Eh oui, tiens donc, le cheval est en effet le héros de notre premier épisode.
La ferme des animaux. Une série proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Léa Lansade, vous êtes chercheuse en éthologie à l'INRAE, spécialiste des émotions et de la cognition animale, et vous êtes l'autrice du livre « Dans la tête d'un cheval » aux éditions Humaine Science. Est-ce que vous avez lu « La ferme des animaux » ?
Oui, je l'ai même relu avec grand plaisir.
Est-ce que vous comprenez pourquoi Orwell a pu décider de choisir un cheval pour en faire le grand héros de sa fable ?
Oui, parce que déjà, le cheval, c'est un des animaux les plus appréciés. Il a un gros potentiel sympathie. Et donc, évidemment, Malabar, dans le livre, il émeut beaucoup, notamment avec la scène au milieu du livre où il part chez les carisseurs.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive un petit peu à Malabar dans la fable ?
Malabar, c'est un cheval qui travaille extrêmement dur. Ça, c'est vrai que ça reflète la réalité. Hein. C'est grâce aux chevaux qu'on a cultivé, qu'on s'est déplacé, qu'on a conquis des territoires. Ça reflète vraiment ce qu'est le cheval. Et puis, une fois que Malabar est usé, n'a plus de force, on lui promet d'aller le soigner et de lui faire passer une belle retraite dans une pâture. Et en réalité, on le met dans le camion de l'écarisseur.
Alors, sa personnalité à Malabar, c'est d'être honnête et naïf en même temps. Est-ce que ça peut correspondre, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'est un cheval réellement ?
Alors, naïf... Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur monde. Hein. Et ça, on le voit bien dans le livre. Ce qui compte le plus pour un cheval, c'est son univers social. Et d'ailleurs, dans le livre, les animaux qui s'entraident le plus, qui parlent, qui ont le plus de relations sociales, ce sont les chevaux. Et ça reflète vraiment ce que l'on connaît des compétences cognitives du cheval. Le plus important pour un cheval, ce sont les autres.
Donc, il a, le cheval, une image positive dans notre imaginaire. On lui attribue des qualités de fougue, de noblesse, de grandeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent ces représentations très ancrées en nous, positives du cheval, Léa Lansade ?
Le cheval, je crois qu'il est très touchant parce que c'est l'animal le plus grand, le plus fort de la ferme. C'est le plus gros animal qu'on ait domestiqué. D'ailleurs, on a mis très longtemps à le domestiquer. C'est le dernier animal qu'on a réussi à attraper, à domestiquer. Et pour autant, il est très doux. Le cheval, ça mange juste de l'herbe. Ça tue jamais personne. D'ailleurs, à un moment, Malabar, ou comme dans l'extrait qu'on a entendu, des fois, il y a des accidents avec les humains. Mais c'est, la plupart du temps, c'est accidentel. Jamais le cheval n'est agressif, ou c'est extrêmement rare. Donc, c'est vraiment ce côté touchant de l'animal très fort et en même temps très doux. Et alors, on ne sait pas encore tout à fait, mais peut-être empathique. En tout cas, qui est très sensible aux émotions de ses congénères, des autres chevaux, mais aussi de nos propres émotions.
Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas encore s'il est vraiment empathique, le cheval ?
Alors, on sait déjà qu'il réagit très fort à nos émotions, aux émotions humaines. Par exemple, si on diffuse avec un haut-parleur une voix en colère, on voit son rythme cardiaque qui augmente. Si on diffuse une voix triste, on voit qu'il s'apaise, il se relâche, parce que c'est une émotion de basse intensité. Il est vraiment comme connecté à nos émotions. Par contre, on ne sait pas s'il va vraiment faire des comportements prosociaux pour vraiment nous aider. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier.
Vous parliez de la domestication, et en effet, les chevaux, avant d'être dans des étables, vivaient en troupeau. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette façon dont on a domestiqué le cheval ?
Alors cette domestication, elle a été longue, ponctuée d'échecs. On a essayé de domestiquer plein de lignées depuis des milliers d'années. Et puis un jour, au Kazakhstan, il y a un petit groupe de chevaux qui s'est probablement approché aussi de l'homme. C'est pas forcément l'homme qui a capturé le cheval, mais le cheval qui est aussi allé vers l'homme. Et cette lignée de chevaux était peut-être un peu exceptionnelle, très sensible, ce que je disais, à nos intentions, à nos émotions. Et puis ensuite, il y a eu comme une fusion. Et à partir de ce groupe de chevaux, sont nées toutes les races de chevaux actuelles. Mais ce qui est très tout à fait fascinant, c'est que même les chevaux, s'ils vivent dans une écurie depuis des dizaines, quelques siècles même, si on les relâche, ils retrouvent tous le même mode de vie, ils se remettent en famille, en grand troupeau, ils n'ont rien perdu de leurs compétences sociales.
Donc, faire vivre un cheval en écurie, c'est obligatoirement le rendre malheureux ?
Oui, on s'en rend compte, et d'ailleurs c'est l'extrait qu'on a entendu, ça provoque des réactions agressives, on parle même de chevaux dans des états proches de la dépression, quand on laisse trop longtemps les chevaux isolés des congénères, ça c'est de plus en plus connu, il y a plein d'études scientifiques maintenant qui le montrent, on l'a fait longtemps par méconnaissance, maintenant aujourd'hui on se rend compte que c'est pas du tout l'idéal pour eux.
Dans la ferme des animaux, Orwell dit ceci à propos de ses personnages de chevaux, Douce et Malabar. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes. Mais une fois les cochons devenus leurs maîtres à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux animaux avec des arguments d'une honnête simplicité. Plus loin dans le livre, on découvre que Malabar a du mal à apprendre l'alphabet.
À différentes reprises, il retint E, F, G, H, mais du moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes.
En revanche, il travaille toujours énormément pour le bien de la collectivité. D'ailleurs, sa devise est « Je vais travailler plus dur ». Il se la répète devant chaque difficulté nouvelle. Là aussi, quel regard est-ce que vous portez, Léa Lansat, sur ce que dit Orwell du cheval ? Alors, il a du mal à apprendre l'alphabet, mais en même temps, c'est un grand travailleur.
Oui, c'est un grand travailleur. C'est assez surprenant parce qu'on a deux images du cheval. Le cheval fougueux, le cheval sauvage, le mustang qu'on n'arrive pas à apprivoiser. Et puis là, dans le livre d'Orwell et dans d'autres ouvrages, l'animal à qui on peut tout faire. Et en fait, c'est vrai, c'est ça le cheval. En fait, au début, quand il est poulain, il faut vraiment, c'est un animal presque sauvage. Et en fait, peut-être qu'avec notre ruse, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, on arrive à l'amener petit à petit à en faire exactement ce que l'on veut. Malabar jusqu'à le faire monter avec toute sa bonne volonté dans le camion de l'écarisseur, quoi.
Donc l'humain est le seul animal qui dresse d'autres animaux ?
A priori, il semble que oui. Même si, au Japon, il y a quelques espèces de primates qu'on a vu monter sur des chevaux, mais je pense pas qu'ils les dressent, simplement ils arrivent à monter dessus, quoi.
Est-ce que ça a du sens de parler de tempérament pour telle ou telle espèce d'animal ? Est-ce qu'on peut dire, voilà, le tempérament du cheval, c'est ça, le tempérament du chien, c'est autre chose ?
Oui, il y a des différences entre espèces. Ce que je disais, la principale caractéristique du cheval, c'est ce côté social. Et c'est ça qui est assez émouvant. On le voit quand les amis de Malabar courent après le véhicule pour essayer de le rattraper. Ils sont vraiment...
Au moment donc où il est envoyé à l'écarisseur.
Voilà, pour se transformer en colle et en nourriture pour animaux. Donc ça, on voit, ça c'est vraiment une caractéristique très importante pour lui. Et puis aussi, c'est un animal extrêmement émotif. Voilà, c'est une proie, donc toujours plus ou moins dans la fuite. Donc oui, il y a des caractéristiques, et puis ensuite, au sein de l'espèce, il y a des grandes variabilités de tempérament, on parle même de personnalité hein, chez le cheval. Il existe des tests qui permettent de caractériser en une dizaine de minutes la personnalité des différents chevaux.
Le cheval est une proie, et pourtant c'est un très très grand animal, et on a entendu dans la première archive que s'il est vraiment blessé, il peut aussi être dangereux.
Oui, mais ça c'est vraiment très rare, c'est très ponctuel, des chevaux qui attaquent, alors moi j'en ai jamais vu. Ça peut arriver, mais c'est vraiment quand ils sont acculés ou quand ils ont été maltraités, comme là enfermés pendant des années, et puis peut-être tapés. Mais sinon, le cheval, il est dans la fuite, et les généticiens ont même vu que le gène de l'agressivité avait disparu au cours de la domestication, contrairement aux chevaux comme les chevaux de Przewalski sur le Cosméjan, qui sont une autre lignée, qui ont gardé de l'agressivité. Chez les chevaux domestiques, il n'y a quasiment plus d'agressivité.
Mais pour se nourrir quand il est à l'état sauvage, il doit bien quand même être un peu agressif, c'est nécessaire, non ?
Non, jamais, jamais. En fait, il n'a pas de territoire, il ne défend pas son territoire. Il se promène et puis voilà, il mange les baies, l'herbe. Non, il n'a aucune agressivité. C'est ça qui le rend attachant. C'est cette force. Malabar, là, il fait une tonne. Et puis en fait, non, il ne défend pas, il ne défend rien. Juste, voilà, il se déplace et il mange au gré de ce qu'il trouve.
Donc Orwell l'avait bien cerné.
Complètement.
Parmi les animaux de la ferme, le cheval revêt un caractère particulier. Il est tout d'abord le seul qui soit monté par les humains. Vous avez remarqué qu'on ne monte pas sur le dos des cochons, pas plus que sur celui des vaches. Parfois on joue à saut de mouton, mais on ne les chevauche jamais longtemps, pauvres bêtes. Et puis le cheval nous a longtemps servi de moyen de locomotion, ce qui en fait un camarade de notre vie quotidienne, contrairement à la vache ou au cochon qu'on sort rarement avec nous en ville. Dans une archive de février 1967, on entend l'éleveur Armand Follot, 75 ans, accompagné de son jeune employé Francis. Tous les deux utilisent un cheval pour se déplacer.
Monsieur Armand Follot, vous venez d'attacher votre gamin.
Oui, monsieur.
Votre gamin à cheval, bien sûr.
Il est très sage.
Très sage.
Vous l'utilisez pour quels besoins, ce cheval ?
Tous les besoins de la culture, quoi, la vigne, les terres, et pour faire mes commissions en ville, à Beaujeu.
Et pourquoi utilisez-vous le cheval encore dans la vigne ? Parce qu'au fond, il y a le tracteur.
Mais il faut les deux ici, c'est montagneux. Où le tracteur ne peut pas passer, le cheval passe.
Que pensent les gens de Beaujeu lorsqu'ils vous
voient ? Ah, ils disent que je suis antique, je suis à part de beaucoup de jeunes.
Mais il y a avec nous les deux générations, puisque M. Follot, vous avez 75 ans, mais vous êtes descendu avec un jeune commis de l'exploitation, M. Francis Harp. Vous avez
18 ans.
Ah, ben on dira pas que les amateurs de cheval sont tous des traditionalistes. La jeunesse aussi s'intéresse au cheval.
Vous avez pourtant une moto.
Oui, mais c'est-à-dire, quand il fait bien bon, vous voyez, au lieu de prendre ma moto, je prends mon cheval. C'est plus économique dans un sens. Et puis...
Surtout que c'est le cheval du patron.
Comment ?
C'est le cheval du patron.
Oui, mais enfin, vous voyez, moi aussi, j'aime la nature. Je suis peut-être pas comme beaucoup de jeunes de Beaujeu, mais enfin, j'aime me promener seul. Et puis, ça fait du bien aussi au cheval. Et puis, je ne sais pas, j'aime mieux le cheval que la mobilette, vous voyez.
Archive 1967, que vous inspire-t-elle, Léa Lansade ?
Ben oui, c'est un peu des époques révolues, hein, le temps où le cheval était un utilitaire. Quand on allait acheter un cheval, c'est comme quand on allait acheter une voiture, quoi. Aujourd'hui, bah, on n'est plus dans ça. Il y a quand même des chevaux qui continuent à travailler dans les vignes, même si c'est sans doute pas la majorité des vignes qui sont exploitées avec des chevaux. Ça
D'accord,
revient.
Donc on trouve encore des chevaux dans les fermes ?
Dans les fermes, je ne sais pas. Dans les vignobles, oui. Dans les vignobles, on retrouve encore des chevaux. Effectivement, dans les endroits où on ne peut pas passer. Mais maintenant, non, le cheval, il est devenu un animal pour le sport, le loisir. On a complètement changé la donne au cours de ce siècle.
Alors, vous parliez du côté très social du cheval. Et c'est vrai que Orwell l'a sans doute senti aussi, puisqu'il met un couple de chevaux au centre de sa fable. Donc, les chevaux vivent en famille. Ça, c'est
une vérité que vous pouvez attester.
Complètement, c'est passionnant de les voir évoluer quand ils sont à l'état naturel. Donc oui, ils vivent dans des petites familles, des petits groupes familiaux de 5-6 individus. Donc il y a un étalon, quelques juments, les poulains jusqu'à 1 ou 2 ans. Et puis comme ça, ces familles souvent se réunissent avec d'autres familles dans des troupeaux plus grands et tout ça s'accorde. Et donc c'est ça en fait qui nécessite pour le cheval d'avoir des capacités cognitives sociales assez complexes pour lire les intentions des autres, les émotions, ce qui va se passer. Et quand on observe ces troupeaux de chevaux, on voit que leur principale activité, c'est de repérer ce que les autres chevaux font et d'adapter leur comportement en fonction des autres.
Les juments sont amies entre elles et dans votre livre, vous expliquez qu'elles peuvent passer, là pour le coup, presque toute leur vie côte à côte quand elles s'entendent bien.
Exactement, il y a des relations extrêmement durables qui peuvent durer toute la vie entre des juments adultes, mais aussi avec leurs filles ou avec leurs sœurs. Il y a des relations filiales comme ça, intenses. On sait, on a fait des expériences qui montrent qu'ils se reconnaissent des années après, qu'elles restent même très attachées entre elles. Il n'y a pas des sevrages, des séparations comme ça, brutales. Les femelles restent vraiment toute leur vie ensemble.
Comment est-ce qu'elles communiquent entre elles ?
Alors, il y a différentes formes de communication. Évidemment, on n'est pas comme là, en train de parler. Ce qui compte beaucoup, c'est la proximité. Quand ils broutent, on croit qu'ils sont répartis comme ça, au hasard, dans le pré, mais pas du tout, en fait. Si on note les distances individuelles entre les chevaux sur plusieurs jours, on voit qu'il y a des amitiés, des relations d'affinité fortes avec des chevaux qui sont proches tout le temps, proches entre eux. Et puis aussi, ça se manifeste par des contacts tactiles. Les chevaux se mettent tête bêche et puis ils se mordillent la crinière, ils se mordillent le haut de la queue. Et c'est comme ça que naissent les relations d'affinité.
Les chevaux communiquent donc entre eux. Ils communiquent également avec les humains, ne serait-ce que par des ruades qui expriment le mal-être ou le mécontentement. Mais il est difficile de savoir ce que pense un cheval. J'imagine que vous serez d'accord avec moi sur ce point. C'est ce que soulignait aussi le journaliste, écrivain et encyclopédiste du cheval Jean-Louis Gouraud dans l'une des nombreuses émissions que France Culture a consacrées à cet animal.
Le cheval ne réagit pas à une communication ordinaire, à la différence du chien. D'ailleurs, le cheval lui-même ne témoigne pas non plus à sa volonté d'une manière visible, d'une manière compréhensible. Il est certains prétendent pouvoir vous dire si un cheval est heureux de retrouver son maître, mais si le maître comprend la joie de son cheval, ce n'est certainement pas à cause de signes extérieurs ou d'une agitation particulière. On n'a jamais vu un cheval remuer la queue de joie, à la différence du chien qui lui bondit, témoigne. Je crois que le chien et l'homme sont si ressemblants et sont si proches l'un de l'autre qu'en effet, ils ont des moyens de communiquer visibles, extérieurs, qui facilitent la communication. Le cheval, lui, est beaucoup plus distant. Il faut trouver avec lui une autre forme de langage. Et au fond, la communication entre un homme et un cheval doit nécessairement relever une communication médiumique.
Léa Lansade, que retenez-vous de cette archive ?
Alors oui, le cheval est très discret. Pour autant, l'éthologie a fait d'énormes progrès récents, sur les expressions faciales. Ça date peut-être d'il y a seulement 5 ans, tous ces travaux-là où on décode. Avant, on n'y prêtait pas attention. On vient de faire une étude avec 1000 personnes sur un site internet où on a montré des expressions faciales des chevaux. Et nous sommes très mauvais, nous humains, pour détecter ces émotions. C'est ce que Jean-Louis Gouraud explique. On est un peu aveugle à détecter les émotions du cheval. Et donc, en fait, ces études qui sont menées permettent d'objectiver et ensuite d'apprendre aux cavaliers, aux propriétaires de chevaux, à lire ces expressions. Parce qu'en réalité, il est très expressif.
Parce qu'il est expressif par le visage ? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas vraiment facilement à comprendre ce qu'il veut nous
Alors
dire.
Alors ça, c'est un mystère parce que étonnamment, les chevaux, eux, lisent toutes nos expressions faciales sur des écrans tactiles. Ils sont capables de détecter nos émotions de tristesse. Ça induit même chez eux des émotions en retour. C'est absolument incroyable. Et nous, humains, on est mauvais. Peut-être parce qu'on parle tout le temps. C'est ce qu'on est en train de faire là. On parle beaucoup. On est noyé dans le langage et c'est très bien. Et on en a un peu oublié de lire ce langage corporel, de lire ces expressions faciales. Donc on n'est pas très bon. Et c'est là où la recherche peut apporter des éléments objectifs.
Comprendre les émotions des animaux n'a pas toujours été le centre de l'activité des fermiers. dans cette archive de 1979. Un éleveur dort avec sa jument sur le point de mettre bas, mais c'est moins par affection que par souci de protéger son capital.
Alors quand on couche avec la jument, qu'est-ce qu'on fait ?
Des fois on s'endort et puis on trouve la conseillée de la couronne
malade. Il faut du potin en réalité.
Ah oui, ça fait du potin quand même.
Oui, beaucoup la jument.
Au moment où elle va faire.
Oui, oui, oui.
Ah oui.
Et gratte un peu ou quelque chose, oui, oui.
Oui. Non, c'est pas comme une vache.
Oui. Oh, ah, ben moi. 10 minutes.
Oui. Oui, oui. Ah bon ?
Donc, oui.
Et elle le fait ?
Oui, oui. Donc, oui, 10 minutes, pas plus. Quand vous avez quelqu'un à aller chercher, pour faire vite. Donc, oui.
Et quand vous avez travaillé pendant 10 ans avec une jument et que vous l'envoyez à l'abattoir, ça ne vous dérange pas ?
Ben, il y a des fois qu'on le regrette, ça dépend si c'est une bonne jument.
Oui. Parce que c'est quand même, quand on a beaucoup travaillé avec, ça doit finir par compter un peu quand même.
Ah oui, ça.
Un bon cheval.
Oui. Quand on a un autre, on dit l'autre, il va remplacer. Oui. Tu sais, quand il y a des poulains ou quelque chose, on dit cela, on nous fera des poulains, ça fait double rapport.
Là, on voit que le journaliste n'est pas du tout sur le même plan que les fermiers. Le journaliste pose des questions sur l'attachement et eux répondent capital et rendement.
Ben oui, parce que le cheval, c'est les deux à la fois. Il y a des gens qui sont attachés au cheval voilà, parce qu'ils l'admirent, ils les aiment, il y a de l'attachement. Et puis aussi, il ne faut pas nier qu'il y a des chevaux qui sont extrêmement chers. Et même hein, dans une ferme, même si ce n'est pas les chevaux les plus chers de la terre, c'était une grosse économie hein, qui tournait autour du cheval. Et encore aujourd'hui, quand on parle de chevaux de course, de chevaux de sport, on peut monter à des sommes absolument astronomiques. Donc il y a les deux.
Le lien mystérieux qui unit les chevaux et les humains est un grand thème littéraire. Le poète Frank Venaille, disparu en 2018, l'a particulièrement exploré. Frank Venaille était né à Paris, mais ses grands-parents possédaient une ferme. Il a raconté avoir croisé un jour le regard d'un cheval et s'être totalement reconnu en lui. Il s'est vu comme un cheval.
Quand j'étais enfant, 5, 6, 7 ans, j'allais en vacances chez mes grands-parents. Qui possédait une ferme en Touraine. Et devant la ferme de mon grand-père, il y avait une autre ferme tenue par son frère, mon oncle, qui avait deux fils, et dont un, Gilbert, devait avoir 19-20 ans. Et moi, j'étais un petit Parisien un peu timide et malingre, et dans mon esprit, ce cousin représentait la force, la grandeur, parfois la violence, l'énergie. C'était quelqu'un qui avait été maquisard aussi. Et Gilbert avait un cheval qui s'appelait Poulot. Et tous les deux, ils avaient des rapports extrêmement francs et aussi violents et directs que Gilbert pouvait l'être dans la vie. C'est-à-dire qu'il arrivait que Gilbert batte son cheval, il lui tapait sur le visage, c'était terrible, quand il avait estimé que le cheval avait été paresseux. Il arrivait qu'il l'embrasse, il arrivait qu'il le... Tous les soirs, d'ailleurs, il faisait boire, et il me disait « Sors-toi de là, sors-toi de là », parce que le cheval était heureux, et alors il faisait des ruades, il avait les jambes de derrière qui sautaient, c'était merveilleux, c'était une masse énorme, il avait un derrière fantastique. Il lui donnait de l'avoine le dimanche, et puis il peignait. Et il dormait dans une pièce attenante à l'écurie. Et moi, comme j'étais un peu imaginatif, peut-être, j'avais l'impression que la nuit, l'un et l'autre se parlaient. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, j'avais beaucoup aimé Gilbert dans mon enfance, il avait beaucoup compté pour moi, et en fait parce que je l'avais pris pour un centaure.
Frank Venaille est très présent dans les archives de France Culture, station où il a notamment travaillé en tant que producteur. On entend dans les émissions où il intervient à quel point le cheval était pour lui synonyme de liberté et de puissance contenue. D'ailleurs, quand il parle des chevaux, on se demande parfois s'il ne parle pas de lui.
J'ai vécu dans les Flandres, j'y vais régulièrement dans les Flandres maritimes, près d'Ostende. J'ai vu des champs avec des canaux, avec des peupliers et avec des chevaux. Et j'ai remarqué que le soir, à la tombée de la nuit, les chevaux régulièrement ne mangeaient plus, étaient fixes, comme ça, dans le champ, et tournaient le dos à la mer. Tous. que la mer soit à 20 km, à 3 km, à 80 km, et regarder en direction de l'intérieur de la Terre. Et je me suis toujours demandé ce qu'il cherchait, ce qu'il comprenait, ce à quoi il pensait ainsi le soir en tournant résolument le dos à la mer. La mer qui serait quoi? Qui serait l'aventure? Qui serait la tentative de dépassement de soi-même? Qui serait je ne sais pas quoi au fond? Et eux, résolument, tournent le dos et, je crois, vont vers une espèce d'intériorisation.
Léa Lansade.
Ah ben moi ça me parle complètement parce que c'est le but un peu de ma vie là, de ma vie professionnelle en tout cas, d'essayer de les comprendre, d'essayer de trouver ce qu'ils pensent. Après attention de pas leur prêter nos propres intentions, nos propres émotions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'ils tournent le dos à la mer? C'est que le vent vient de la mer et ils mettent toujours leur croupe au vent. Donc je pense qu'il y a une explication tout à fait rationnelle et simple. Donc l'idée c'est de se remettre vraiment dans leur univers à eux. Après, moi, ce qui me fascine, c'est d'essayer de détecter la gamme des émotions qu'ils ressentent, parce que probablement qu'ils ont peut-être une gamme plus riche encore que la nôtre. Et ça, j'aimerais bien le savoir, mais est-ce qu'on sera assez intelligent pour avoir accès à tout ce que pensent? Je ne sais pas.
Donc des émotions inconnues de nous qu'ils pourraient ressentir?
J'imagine que oui.
On l'a dit, dans La ferme des animaux d'Orwell, le cheval Malabar est l'un des personnages les plus importants. Les poules, elles, n'ont pas droit à une si grande exposition. Et puis, elles sont toujours représentées en groupe et non pas individuellement. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport à ces animaux déclassés? Nous allons le voir tout de suite dans notre deuxième épisode.